BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes en direct depuis Aix-en-Provence, les rencontres économiques où il fait déjà très chaud ce matin. On est ensemble en direct pour une heure de débat et de controverse sur l'actualité du jour. Une actualité très budgétaire ce matin. Et si la bataille du budget s'engageait à Aix ? Hier, le Premier ministre a tiré la sonnette d'alarme. Si on n'est pas capable de se mettre d'accord sur un budget de compromis pour 2027, eh bien le déficit risque de déraper à 6,5% du PIB et la France sera démunie face à la moindre crise. Alors il va falloir encore trouver 6 milliards d'euros et pour cela, Sébastien Lecornu a créé la surprise en proposant une mesure fiscale choc sur les grandes fortunes. Pas de taxe Zuckman, mais pourquoi pas orienter une partie des très grands héritages vers des fonds d'intérêt public. C'est une proposition de Philippe Aguillon qu'on vient de recevoir sur le plateau de BFM Business ce matin, que le Premier ministre propose de mettre en place, attention, dès le prochain budget. Quand Gabriel Attal lui promet dans Le Parisien ce matin de revenir à l'équilibre en deux quinquennats, en taillant notamment dans la dépense sociale. Et Patrick Martin, lui, président du MEDEF, de réaliser 100 milliards d'économies d'ici 2030. Donc vous voyez une actualité extrêmement budgétaire ce matin. Des sujets qui vont animer cette journée à Aix-en-Provence ce vendredi, où sont attendus entre autres François Hollande, Édouard Philippe ou Gabriel Attal. On en parlera évidemment sur le plateau des experts ce matin. Allez, on est parti pour une heure de débat. C'est les experts, vous êtes en direct sur BFM Business depuis Aix-en-Provence. Let's go. Allez, j'ai plaisir d'accueillir sur le plateau ce matin Ludovic de Sauté. Bonjour Ludovic.
Bonjour Raphaël.
Directeur délégué de la Tribune, face à vous Emmanuel Auriol. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Raphaël.
Professeur d'économie à la Toulouse School of Economics et Benoît Durini. Bonjour Benoît.
Bonjour Raphaël.
Directeur général de Manpower avec qui on va parler emploi tout à l'heure et il y a évidemment. Bon, d'abord, un petit tour de table pour commencer. La question qu'on pose toujours à, et je reçois également, il vient d'arriver, Xavier Durand. Bonjour Xavier, le directeur général de la COFAS. Bienvenue sur le plateau des experts. Allez, je commence avec vous, Xavier, pour commencer un tour de table rapide à tous. La question qu'on se pose toujours quand on se croise dans les allées ici, c'est comment vous trouvez l'ambiance ? Les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, c'est une sorte de baromètre de la tension du monde économique. Qu'est-ce que vous avez retenu des discussions hier ? Je commence avec vous, Xavier Durand, directeur général de la COFAS.
Aix-en-Provence est toujours un endroit où, en très très peu de temps, on rencontre une très bonne part de représentatifs du système économique français. Et donc, beaucoup de discussions, beaucoup d'intérêt autour de l'innovation et des questions à la fois d'innovation, de géopolitique, d'investissement. Beaucoup de curiosité, je crois qu'il y a beaucoup de changements dans le monde et donc un débat qui est dynamique, qui est vif et qui se pose, je crois, beaucoup de bonnes questions.
Oui, la révolution qui nous attend, nombreuse. Emmanuel, la même question.
Oui, alors tout à fait, je rejoins ce qui vient d'être dit. Donc d'un côté, il y a des inquiétudes portées par une transformation technologique majeure qui est l'IA, qui est un bouleversement digne de l'informatique et de la révolution industrielle. C'est une vague incroyable. Donc ça crée une inquiétude. Il y a aussi des tensions, il y a la guerre dans plusieurs zones du monde. Et en même temps, une forme d'espoir parce que l'Europe se relève un peu. Il y a cette idée de construire une défense européenne. Il y a une idée d'investir dans la recherche et le développement. Donc, Aix est un peu ce creuset où on essaye à la fois d'analyser ce qui se passe et puis de voir un peu le futur avec un œil plus optimiste.
Le baromètre des inquiétudes et des espoirs à venir. Vous partagez cette analyse, Benoît Durini ?
Moi, je trouve que c'est un événement qui ne cesse de monter en puissance, vraiment.
Ah oui,
et cette année encore plus. On voit vraiment que ça s'installe comme le moment de respiration de l'été, avant que chacune et chacun prenne quelques vacances. Et donc, c'est toujours un point de l'année à mi-parcours. Et cette année en particulier, on s'y retrouve l'ensemble du monde économique au sens large, hein, y compris la recherche. Et c'est devenu vraiment un temps très fort et à mon avis incontournable désormais. Ouais.
Et des rencontres, Ludovic, très politiques cette année aussi. Ouais, hein, c'est le défilé des candidats.
Ouais, donc Édouard Philippe, Gabriel Attal et tout ça.
On attend aujourd'hui. Ouais.
Ouais. Moi, ce qui me marque, je sens une inflexion. Je ne sais pas si vous la percevez, Raphaël. Moi, je la ressens. C'est-à-dire que l'année dernière, on était en plein droit de douane l'année dernière, rappelons-nous.
C'était la guerre commerciale à tous les étages.
Ouais. Là, évidemment, il y a des échanges, il y a des tables rondes sur ce qui ne va pas, les freins et tout ça. Mais on sent une inflexion dans le discours. Et je pense que c'est assez préparatoire à la présidentielle. C'est-à-dire un peu, il faut aussi y croire. Parce que, à force d'être défaitiste, eh ben, la présidentielle le résultat risque d'être très, très douloureux.
Vous sentez une forme de volontarisme?
Oui, parce que c'est vrai qu'on se fait mal, surtout dans ce pays, en France, on aime bien se faire mal. Il y a des choses qui vont pas, on va en parler, la dette, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il y a aussi des pépites, il y a aussi des possibilités, il y a des chemins possibles. Et là, je sens que, au travers des échanges, des magnifiques tables rondes et tout ça, je sens une énergie en train d'arriver en disant, voilà, il y a des chemins possibles et arrêtons de nous faire mal parce que, on sait qu'une des clés aussi, c'est de relancer la conso, de faire que ce pays déverrouille l'épargne et tout ça. Et voilà, je pense que cette année, il y a un peu plus envie d'y croire parce que, on est à 10 mois d'une présidentielle et cette présidentielle, évidemment, j'allais dire, il y a deux bords qui inquiètent extrêmement le monde économique et qui ont envie, sur lequel on n'a pas envie de plonger. Ouais. Et là, il y a une perception et je pense que maintenant, il faut un peu positiver.
Ouais. Alors parmi les sauts de haie, il y a le budget hein, qui arrive. L'actualité économique ce matin est extrêmement budgétaire, Emmanuel Auriol. Alors je le disais, le discours de Sébastien Lecornu hier, avec cette annonce surprise, on ne s'y attendait absolument pas. Un discours qui a été plutôt salué d'ailleurs par l'ensemble des gens que j'ai pu croiser. Mais cette annonce sur cette mesure, inspirée par Philippe Aguillon, prix Nobel d'économie qu'on vient de recevoir sur le plateau de BFM Business, qui est de contraindre assez fortement les grandes fortunes, il parle des milliardaires, hein, Philippe Aguillon, à orienter une partie de leur capital au moment de la transmission vers des fonds d'intérêt public, réindustrialisation, défense, l'un de vos sujets de prédilection, Emmanuel Auriol. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure?
Je crois que on a des efforts devant nous énormes et l'acceptabilité de ces efforts est très faible dans notre pays. On ne peut même pas geler les retraites un an quand l'inflation est à 2%. Enfin, je veux dire des choses très simples. Hein. Je ne parle pas de les couper à 20%. Donc, il y a un vrai problème politique et on ne peut pas faire avaler aux Français encore des efforts fiscaux, parce que c'est ça qui est question, si les plus riches ne contribuent pas. Donc, je crois que cette question de la justice fiscale, et notamment de ceux qui sont les plus fortunés, se pose. Après, il faut faire attention parce qu'on est dans un monde ouvert, qui reste ouvert, et on est un des pays qui taxons le plus déjà le capital. Donc on doit le faire intelligemment. Je pense que Lecornu a été habile et qu'il propose quelque chose qui est sans doute... Enfin, qu'il faut explorer. Parce que bon, la taxe Zucman, personne n'en veut.
Mais très clairement, c'est-à-dire qu'il propose une alternative à la taxe Zucman sur le capital.
Voilà. Mais des plus hauts...
Il a reconnu, hein, Benoît Durini, qu'il avait perdu, en quelque sorte... la bataille de l'hégémonie culturelle, si on veut reprendre les termes de Gramsci, évidemment Gabriel Zucman qui a inondé tous les plateaux médiatiques après la démission de François Bayrou pour imposer cette thématique. On a un peu tardé à voir la réponse du patronat. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez pu avoir aussi?
Alors moi, ce que je trouve extrêmement satisfaisant dans tous les échanges qu'on voit et les sujets qui montent en pression, c'est qu'en fait le sujet de l'emploi et du travail revient au centre des discussions, parce que c'est le point d'entrée ou le point d'équilibre entre les discussions sur le modèle social et les différents points de vue, le sujet de la compétitivité, le sujet du le travail paye ou ne paye pas,
le pouvoir d'achat, évidemment, rapproché salaire brut du net.
Et donc en fait c'est le retour de la thématique du travail et de l'emploi qui était plutôt passé au second plan, qui revient au centre à travers toute une série d'enjeux sur lesquels, de toute évidence, il y a un consensus sur les enjeux. Évidemment, il y a des différences sur les réponses.
Oui.
C'est tout l'intérêt, à mon avis, de la séquence de respiration démocratique qui s'annonce.
On va y venir tout à l'heure. Xavier Durand, un même mot sur ce combat pour l'hégémonie culturelle entre la fiscalité du capital de l'autre et puis peut-être un modèle plus anglo-saxon de charities, de donations du côté des grandes richesses.
C'est-à-dire qu'on a pris conscience, et on le voit bien, que on a besoin de capitaux. L'innovation qui est en train de se produire nécessite des investissements qui sont incroyablement élevés. Et c'est le gros point, je dirais, de faiblesse de l'Europe par rapport aux États-Unis, c'est que souvent les innovations sont d'origine européenne. La technologie, on a, je crois, une recherche, etc., et des savoir-faire qui sont très forts. Mais quand il s'agit de passer à l'échelle, quand il s'agit d'industrialiser et de démocratiser, ça demande des capitaux énormes et l'Europe n'est pas bien organisée pour faire ça. Donc je pense que, encore une fois, la recette, on peut en discuter, mais arriver à orienter ces capitaux et à les mettre au travail en Europe, oui. c'est ça le gros enjeu.
Là, vous posez la question de l'union des marchés de capitaux, très clairement. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même profondeur, évidemment, de marché qu'aux États-Unis et on en paye le prix, on continue à en payer le prix. Est-ce que vous pensez que cette union des marchés de capitaux va pouvoir émerger à un moment au niveau européen?
Je l'espère, je le souhaite. Je crois que ce qui est en train de se passer au niveau géopolitique, c'est-à-dire les tensions accrues avec les États-Unis sur le digital, avec la Chine sur l'industriel, font prendre conscience à l'Europe qu'il faut qu'on bouge.
Oui.
Et je crois que, dans un sens, elle nous aide. C'est toujours dans les moments de difficulté que l'Europe réagit. Alors, ça va pas assez vite, on n'est pas très très bien organisé, ça prend du temps du fait du fédéralisme européen, mais on voit des choses qui se mettent en place.
Alors, fédéralisme, pas encore, mais une gouvernance, en tout cas, entre États-nations, effectivement.
C'est ça, tout à fait.
Qui fait qu'on a du mal à avancer vite, en tout cas, oui.
On a du mal à avancer vite, mais on avance, on voit des efforts qui sont parfois bilatéraux, parfois multilatéraux, qui concernent, je ne sais pas, la défense.
Alors, allez-y, on est là aussi pour nourrir l'optimisme, parfois, souvent, autour des experts. On déplore ce manque de rapidité, cette latence au niveau européen, mais qu'est-ce qui va bien? Ça m'intéresse aussi beaucoup, Xavier Durand. Cartographie ça à la COFAS.
Non, mais on cartographie ça. Alors, l'Europe fait face à une croissance faible, c'est clair, mais l'Europe a les technologies, l'Europe progresse doucement. On voit des secteurs comme la défense, on voit des choses qui se passent, et petit à petit, ça se met en place. Alors, je crois que c'est vraiment une question de rythme, c'est vraiment une question aussi de prise de conscience du public, mais aussi des politiques. Parce qu'il y a beaucoup de freins, mais je crois que l'Europe, petit à petit, est en train d'aller dans le bon sens. En tout cas, il y a des choses qui, pour moi, se débloquent progressivement et que je crois qu'on avait vu un peu figé pendant un certain temps.
Il y a un mot qui a été répété plusieurs fois par Sébastien Lecornu, pas que, par un autre ancien Premier ministre, Dominique de Villepin aussi, c'est le mot de souveraineté hier. On entend beaucoup, beaucoup parler de souveraineté désormais aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui était un peu un gros mot, hein. Il y a encore 10 ans en arrière, on était davantage dans un logiciel de libre-échange. Est-ce que c'est ce que vous constatez, Emmanuel Auriol?
Alors, la souveraineté pour l'Europe, c'est vrai qu'on a une croissance faible, mais on a des handicaps énormes, on n'a pas d'énergie. Et quand on regarde les données longues, hein, la croissance...
On a des centrales nucléaires.
Voilà, alors j'allais y venir pour la souveraineté. La France a des atouts, notamment ce programme nucléaire qu'on n'a jamais abandonné, contrairement à l'Allemagne. Hein, ils ont fait des erreurs historiques, alors ils y reviennent.
On va en parler dans la seconde partie de l'émission du modèle allemand.
Mais quand même, cette souveraineté, donc d'abord, elle sera énergétique. Parce qu'on ne peut pas avoir de croissance sans ça. Le fait qu'on ait développé en France et qu'on continue à vouloir financer le nucléaire, par exemple, avec l'épargne des Français qu'on évoquait, hein, le livret A notamment. Donc il y a cette idée de servir la France avec une épargne très forte. C'est pas l'innovation, mais c'est au moins un verrou qu'on doit absolument débloquer. Et ça nous permet d'attirer en fait du capital, notamment par exemple des stockages de données qui sont très très énergivores, qui cherchent des endroits où c'est relativement stable l'approvisionnement, et le nucléaire c'est très très stable, et décarboné parce que c'est un des critères européens. Et l'Europe, je suis d'accord, est lente, mais elle a un côté efficace, c'est un paquebot, hein. L'inertie est très forte, mais elle est efficace dans le sens que quand elle met des règles, eh ben, elle les fait respecter, et je pense il ne faut pas oublier qu'on est une des zones économiques les plus riches au monde. Bon, c'est là où il y a les consommateurs. Et ça, c'est un atout que nous avons. Donc, il y a des choses très bonnes, et je crois qu'il faut qu'ici, on dise aussi. On a des coalitions entre pays. Voilà, c'est pas forcément tous ensemble maintenant, mais suffisamment coalition de bonne volonté pour avancer collectivement, parce qu'on est menacé de toute façon. Donc, on doit y aller.
Bon, allez, l'heure du rebond européen, français et peut-être européen, Ludovic.
Ah, mais c'est intéressant ce que dit Emmanuel, parce que je trouve que dans la souveraineté, là aussi, il y a une transition. C'est-à-dire l'année dernière, quand on était là, il faisait encore un peu plus chaud. La souveraineté, on était à l'époque des droits de douane, enfin le choc de Donald Trump.
Oui.
Et là, on mesurait, j'allais dire, la partie vertige de la souveraineté, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas. Les terres rares, et puis
nos dépendances
aussi, voilà, la dépendance. Oui. Et là, on a un changement, parce qu'on commence aussi dans la souveraineté. La souveraineté, c'est on est dans une logique d'affrontement, d'interdépendance. et on commence à mesurer ce qu'on a ou ce qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie, mais je pense aussi à l'aéronautique, je pense à la défense, je pense au quantique. On n'a pas tous les matchs, on peut pas jouer tous les matchs, mais et dans la souveraineté, il faut aussi s'apercevoir des arguments qu'on peut avoir. Et puis il y a l'argument dont Emmanuel a raison, c'est-à-dire qu'on est dans une zone continentale qui est riche, qui représente un marché colossal, avec une épargne dont on la gestion de l'épargne, ça, on pourra y revenir, c'est tout un dossier, mais en tout cas, oui. Il y a une capacité malheureusement qui ne ruisselle pas, mais qui est phénoménale, et on a un effet de levier qui pourrait être fantastique. À nous de jouer maintenant, à nous de jouer.
À nous de jouer. Xavier Durand, je rappelle, vous êtes directeur général de la COFACE. Je voulais qu'on fasse un peu ensemble la cartographie des risques à venir, le message que vous pouvez adresser aux chefs d'entreprise qui nous écoutent en direct sur BFM Business pour l'année 2026-2027. Qu'est-ce qu'il va falloir regarder? Qu'est-ce que vous disent vos clients?
En fait, c'est devenu presque impossible de faire des prévisions à court terme ou à moyen terme qui tiennent. Donc le message, essentiellement, c'est de dire, depuis 2019, depuis le Covid, oui. On a vu une succession de crises. On est dans un espèce d'état de permacrise.
C'est la permacrise.
C'est la permacrise. Donc c'est devenu presque impossible.
Même depuis la crise financière de 2008, en réalité.
Un petit peu, oui.
Mais enfin, ça a rendu les entreprises plus résilientes, ça, quand même.
Alors, ça oblige les entreprises à revoir leur échelle de valeur et de se dire, je ne vais pas tout miser sur un scénario, je vais voir large. Et je vais devoir bâtir de la résilience, de la redondance dans mes process, dans mes chaînes d'approvisionnement, etc. Ça a un coût, mais ça a aussi un bénéfice.
Oui.
Et puis, je dirais, il y a une deuxième notion pour moi qui est importante, c'est de dire, si vous voulez bien faire à long terme, il faut faire bien tous les jours à court terme. Alors là, je reviens un peu au métier de la COFACE, parce que nous, on assure les entreprises contre le risque de défaillance de leurs clients, donc oui. Une échéance de 2-3 mois, et on procure des données aux entreprises pour leur permettre d'avoir de la donnée fraîche et de prendre des décisions quotidiennes qui amènent pas un gros pépin opérationnel qui, lui, est un gros problème quand il s'agit de résilience à moyen terme.
Ah oui. Hein,
voilà, donc c'est vraiment ça, à mon avis, le focus. Donc il y a un coût, on le voit dans l'économie, on voit que ça ralentit. Il y a un coût à la résilience, mais il y a un bénéfice à moyen terme à le faire bien.
Bon. On va plus longtemps. Benoît Durini.
Je voulais rebondir sur la résilience. Moi, je partage entièrement ce point de vue. Je trouve que le changement qu'on voit, c'est les deux mots clés maintenant, c'est résilience, c'est-à-dire être capable d'encaisser un imprévu. Et il y en a encore eu un avec le Hormuz il y a 3 mois.
Oui.
Et en même temps, être agile pour saisir les opportunités, parce que quand il y a une fenêtre d'opportunité, ça dure pas longtemps. Voilà. Et donc, on voit bien que le maître mot.
Résilience et opportunité.
C'est résilience pour encaisser les chocs. Et agilité pour saisir les opportunités. Et quand on en vient, et c'est le point que vous évoquiez sur les chaînes de valeur, moi je trouve que c'est très clair. Il y a eu toute une période où consistait à optimiser au maximum sa chaîne de valeur entre l'endroit où j'achète, je produis et je vends,
oui,
pour optimiser économiquement la chaîne. Là, le sujet, c'est moins ça. Évidemment, il y a un enjeu économique, mais c'est surtout d'optimiser la résilience de ma chaîne de valeur, parce que comme je ne sais jamais où ça peut et où peut y avoir un incident géopolitique, il faut que ma chaîne de valeur soit résistante et résiliente. Ça peut peut-être me coûter plus cher, mais en revanche, ça me coûtera beaucoup plus cher si à un moment ou à un autre, j'ai une rupture dans ma chaîne de valeur. Et ça a une conséquence, et je reviens à la souveraineté, c'est que ça peut avoir une conséquence, et c'est positif, évidemment, en ce qui concerne la réindustrialisation, c'est-à-dire, oui, de rapatriement d'un certain nombre d'éléments de production dans ma chaîne de valeur pour les sécuriser en France ou sur des pays sur lesquels on a une certitude géopolitique.
C'est une dynamique qu'on voit, ça, Ludovic.
Ce que dit Benoît est important, parce que on a été un peu idiots quand même. J'ai l'air dans la mondialisation à flux tendu, mais qui était vraiment, c'était une peau de tambour. C'est-à-dire que on a pris, évidemment, tout fonctionne, c'est merveilleux. Là, on s'est aperçu.
On a optimisé les supply chains.
On a suroptimisé. C'est-à-dire que on a optimisé dans un monde qui n'existe pas, de bisounours, tous bras dessus, bras dessous. Là, le monde a changé. Et ce que dit Benoît est extrêmement important, parce que il y a une compréhension, mais j'allais dire, il y a une recompréhension de ce qu'est une activité. Je pense notamment à l'industrie, je pense aux matières premières, aux intrants et autres. C'est-à-dire de se dire maintenant, en fait, il faut de la visibilité. C'est-à-dire qu'on peut pas juste piloter dans des logiques de flux. Maintenant, il faut construire. Je pense qu'il y a une compréhension de la part des décideurs, des patronats, ces derniers mois, et peut-être que si tout ça se termine bien, à la fin on remerciera la Chine, on remerciera Donald Trump, parce que ce sont des lignes de fragilité qui, à un moment ou à un autre, allaient claquer. Donc, et cette prise de conscience, elle est probablement salutaire. Elle va poser des questions profondes. Elle va poser des questions profondes sur certains secteurs. Je pense notamment à la santé.
Oui.
C'est vraiment une question extrêmement profonde sur l'accès aux molécules et autres. Mais Ce point-là fait que probablement on est en train d'acheter de la visibilité économique, et la visibilité économique, c'est quelque chose de très très précieux.
Oui, Xavier Durand vous confirme.
Oui, moi je partage ce propos, j'avais deux observations. Le premier, c'est que le commerce mondial fait preuve d'une incroyable résilience qu'on lui a mis quand même.
Il a continué de progresser l'année dernière, faut le dire.
Donc, vous pouvez mettre des sanctions, vous pouvez avoir des conflits géopolitiques, vous pouvez mettre des tarifs, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On dit chez Coface, le commerce, c'est comme l'eau, ça trouve un chemin. Hein, et je crois que donc d'une part, la capacité à se réinventer, à se réorganiser, est incroyable. Et je pense qu'il faut pas oublier ça. Et donc, il faut en tenir compte dans le. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que l'improvisation ou la réactivité, ça se travaille. C'est un muscle qu'il faut exercer au quotidien ou dans les entreprises pour s'entraîner à changer en temps réel quand les événements se produisent, puisqu'on ne sait pas les prévoir. Donc il y a vraiment des questions de culture, d'organisation. Et je partage votre point de vue. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est dans un sens bénéfique sur le moyen terme. Parce que tout ce qui vous tue pas vous rend plus fort.
Hein. Emmanuel, une réaction ?
Oui, alors je voulais rebondir justement sur le fait que le commerce international n'a pas faibli, ce qui montre qu'on n'est pas si dépendant que ça, en fait. On n'a pas besoin de faire des stocks de trucs qui existent par ailleurs sur la planète, parce que de toute façon, on est imbriqué commercialement avec le reste du monde, même avec des pays où on a des zones où on a des tensions. Moi, ce que ça a remis en question l'épisode récent, c'est un peu la vision des Lumières du doux commerce de Montesquieu, l'idée que, et la construction européenne, c'est ça, c'est si on fait du commerce, on ne fait pas la guerre. Eh bien, ce n'est pas vrai. On peut faire un pipeline entre l'Allemagne et la Russie et quand même avoir la guerre, ce qui, pour moi, est vraiment une source de choc, parce que je pensais, en tant qu'économiste, que l'intégration économique était un facteur de diffusion de la paix. Et ce qui a été vrai, hein, depuis la guerre froide jusqu'à...
On a vécu une période de prospérité, ouais, d'échange et de paix.
Mais ce n'est pas complètement vrai. Il ne faut pas oublier l'idéologie. Ouais. Mais vraiment, c'est un truc... voilà. Donc, mais on est quand même intégré. Donc, on n'a pas besoin de faire des stocks de tout. Honnêtement, c'est... La souveraineté, ça doit être intelligent. Ça doit être sur certains secteurs. Ça ne doit pas être, voilà, j'accumule dans mon garage, je sais pas, n'importe quoi. C'est pas ça la souveraineté. Oui.
Je voulais un dernier mot sur le détroit d'Ormuz. Est-ce que vous avez confiance en la réouverture ou pas? Et puis un dernier mot sur l'IA.
Bah, je dirais que vous savez, cette crise, elle a démarré, on ne l'a pas vu venir. Elle a duré plus longtemps que certains disaient. Elle est peut-être en train de se calmer, mais je dirais peut-être, parce que...
Prudence.
Il faut être prudent. On revient au thème précédent. Personne ne sait ce qui va exactement se passer, et ce qu'il faut, c'est savoir résister.
Oui.
Moi, j'ai un commentaire sur le commerce international. Je pense qu'il n'est pas une protection absolue contre la géopolitique, mais ça aide. Parce qu'on est imbriqué, donc on voit bien que les intérêts réciproques sont quand même de continuer à commercer. Le bénéfice global tiré par l'humanité du commerce est immense. C'est pour ça que c'est résilient.
Et d'ailleurs, voilà, l'issue de la guerre avec l'Iran, c'est lié au commerce, en fait. Et donc, on veut avoir la paix à tout prix, parce que ça perturbe tout le monde. Donc.
Au commerce, aux midterms, et puis un peu au taux des marchés aussi obligataires qui peuvent mettre la pression.
Oui, mais c'est lié. Je suis d'accord. Le doux commerce, c'est une notion quand même. Voilà, quand on fait du commerce, on ne fait pas la guerre.
Bon, Benoît Durinier, on parle de où sont les risques en 2026-2027 pour l'emploi. Je voulais terminer avec vous. Où sont les risques sur... Le chômage augmente en France, on le sait. Et puis, il y a cette révolution, cette vague qui arrive, qui s'appelle l'IA, et dont on ne sait pas encore de quel côté va retomber la pièce. On craint pour beaucoup de métiers quand même, et notamment pour les jeunes. Alors, vous êtes plutôt optimiste ou inquiet ?
Moi, je vais vous dire trois mots. Je dirais, il y a une dégradation de la situation de l'emploi, incontestablement, et c'est clairement dû au PIB, donc à l'activité économique.
Oui.
Ça, comme souvent dans les parties, pas de récession, mais de ralentissement, c'est évidemment les jeunes diplômés, quand ils rentrent sur le marché du travail, qui sont souvent en première ligne sur ce sujet-là, d'où l'augmentation du taux de chômage. Mais il y a un magnifique amortisseur qui s'appelle la démographie. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très concrètement, compte tenu du mur démographique et d'un certain nombre de départs, en réalité, c'est ça qui fait qu'on a un taux de chômage qui est aujourd'hui à 8,1, et évidemment c'est trop élevé, mais il n'est pas, et probablement il ne sera pas, à 10,5 ou 10,6 comme on a connu en 1996, je crois, ou 2016, un truc comme ça. Donc ça, c'est...
Voilà. Là, vous êtes en train de nous dire que le chômage à moyen terme ne sera plus un sujet en réalité. avec la pyramide des âges.
Et je dis du coup que l'enjeu, moi, pour moi majeur, c'est le renouvellement des générations et le transfert des compétences. Et on passe d'un marché de l'emploi à un marché des compétences. Ça veut dire que concrètement, la génération qui va partir progressivement dans les prochaines années a une expertise. Comment faire pour que cette jeunesse et ceux qui vont rentrer sur le marché de l'emploi transmettent sur un point en particulier, on va reboucler sur la souveraineté, sur tous les métiers manuels et techniques.
Oui.
L'industrie au sens large a besoin d'expertise manuelle technique. Je ne parle pas forcément d'ingénieurs, je parle de techniciens supérieurs, de compétences industrielles. Et c'est la même chose dans la construction. C'est des métiers qui s'apprennent avec l'expérience. Quand on part à la retraite, il faut pouvoir transmettre.
Et, oui.
Et je pense qu'un des enjeux majeurs sur le marché de l'emploi et du travail sur les années qui viennent, ça va être cette transmission pour réussir à passer ce mur démographique dans une période où justement on a besoin de réindustrialiser ou de remettre sur le territoire un certain nombre de compétences industrielles.
Bon, voilà le lien en génération. Vous souhaitez réagir, Emmanuel ?
Oui, parce que je pense que ce qu'il vient de dire est très important, qu'il y ait une transmission sur le lieu du travail de métiers manuels, parce que l'IA, pour l'instant, on ne va pas prendre les métiers manuels, c'est la bonne nouvelle. Et le problème, c'est la faille de l'école, parce qu'on a les classements internationaux qui montrent qu'on est complètement nul. On est pire que nous en maths, il n'y a que le Chili dans les pays de l'OCDE.
Oui.
D'accord ? Donc l'Angleterre...
Il y a des marges de progression.
Oui, mais donc ça veut dire la formation initiale, elle n'est pas bonne en France. Hein. Nos enfants sont mal formés et on a des jeunes au chômage parce qu'ils sont nits. Hein. Ils n'ont aucune qualification, ils ne savent rien faire. On en a beaucoup plus que dans les autres pays. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et je ne sais pas comment l'entreprise peut... c'est la notion d'apprentissage, mais peut pallier à ce genre de manque. Mais je suis assez sensible à cet argument de transmission. Je crois que c'est important.
Bon, les jeunes qui sont un sujet majeur aussi dans les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, ici. Merci à tous les deux. Merci Benoît Durigny, directeur général de Manpower. Et merci Xavier Durand, directeur général de la COFAS. On se quitte pour une petite minute et on se retrouve juste après. On va parler de l'Allemagne, de l'explosion de son modèle économique et des réponses allemandes qui sont en train d'être apportées. Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission, toujours en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Et nous a rejoint Ludovic Subran. Bonjour Ludovic.
Bonjour Raphaël.
Chef économiste et directeur des investissements d'Allianz pour parler de ce grand plan de relance allemand qui a été présenté hier pour remettre l'Allemagne sur les rails, a dit le chancelier allemand Friedrich Merz. Vous connaissez par cœur, cher Ludovic, l'Allemagne, puisque vous y travaillez une partie de votre temps. Le modèle allemand, il a été complètement disrupté par d'abord la guerre en Ukraine, ensuite la fermeture du marché chinois, l'offensive commerciale américaine. Est-ce que vous pouvez nous parler du mood, un peu de l'ambiance en Allemagne en ce moment ? 80% d'opinions défavorables sur l'action de Friedrich Merz. Qu'est-ce qui ne va pas ?
Il y a en effet tous ces traumatismes, hein, parce que pour l'Allemagne et pour les Allemands, surtout pendant 20 ans, 25 ans, on leur a dit produisez moins cher, exportez, importez du gaz russe, faites confiance aux Américains pour la sécurité, et d'un coup tout est balayé en quelques années. Donc Friedrich Merz est un peu celui qui doit redonner ses ordres de noblesse à l'Allemagne. Il y a une semaine fait une commission de réforme du système de retraite
avec des propositions incroyables, hein.
Avec des propositions assez audacieuses, ouais.
Oui.
Et là, son parti, parce que c'est pas un rapport de coalition, c'est vraiment le parti qui fait 36 propositions. Vous parlez de retour de la croissance en Allemagne. En Allemagne, moi, ce que je vois, c'est surtout un choc de simplification. Une réforme un peu du modèle travail protection sociale,
oui.
Et un petit peu un début de réflexion sur les secteurs stratégiques allemands. Donc en fait, je vais pas dire souverainiste, mais en tous les cas un peu plus interventionniste, un peu moins laisser faire, un peu plus de politique industrielle.
Le mindset est en train d'évoluer en Allemagne, qui était effectivement évidemment tourné vers le commerce international. Davantage que la France, évidemment. Donc vous nous dites qu'un peu de protectionnisme pourrait arriver aussi en Allemagne.
Pas de protectionnisme, mais une politique industrielle. C'est-à-dire qu'ils adoptent en
plus fait des soutiens
sur certains secteurs qui sont un peu plus mal à l'aise. Après, moi, pour juste résumer ces propositions, il n'y a pas beaucoup de croissance à gagner.
Ah.
c'est pas très dispendieux, c'est plutôt la bonne nouvelle. Il y a 10 milliards de taxes en moins et il y a à peu près 2 milliards de revenus. Donc ça coûte 8 milliards, mais les Allemands, ils ont beaucoup d'espace budgétaire, on va dire ça comme ça. Même
s'ils ont 4% de déficit. Hein. Ouais,
ouais. Donc 4% de déficit cette année, wouh, c'est, ils ont fait les fous. Et donc là, le vrai sujet de ce, de ces propositions-là, c'est libérer un peu, moderniser, libérer un peu les forces vives. Est-ce que ça suffira? Moi, ce qui manque, c'est qu'il n'y a rien sur l'IA. Et donc je me dis, si on veut vraiment moderniser un pays aujourd'hui, notamment les services publics, il faut mettre l'IA, donc ça manque un peu. Donc c'est pour ça qu'il a été reçu avec un peu de nuance.
Et prudence.
Dit, pas mal, peut mieux faire.
Bon, alors je rappelle, on va rappeler hein, 34 mesures pour relancer une économie qui effectivement accumule les mauvaises nouvelles. La destruction de l'emploi industriel en ce moment en Allemagne se fait à un rythme incroyable.
Trois années à zéro croissance, une année cette année-ci qui devrait être à 0,5, alors qu'ils ont mis un stimulus budgétaire énorme.
Eh oui.
Il n'y a pas moyen de ramener la croissance à 1% et ça les stresse, bien sûr. Hein.
10 milliards de baisses d'impôts pour les ménages et en échange, davantage de flexibilité sur le marché du travail, des contrats à durée déterminée plus longs.
Et la rupture conventionnelle qui fait son entrée sur le marché allemand, voilà. Qui est une grande nouveauté dans ce monde de la codétermination. Donc ça, c'est des histoires de flexibilité du marché du travail qui sont très importantes et qui, au moment de l'IA, va changer la donne.
Comme quoi, on peut influencer aussi, inspirer l'Allemagne par des mesures françaises et des mesures beaucoup plus strictes sur les arrêts maladie. Ça va être un sujet du prochain budget en France aussi. Et puis, baisse de 8% des effectifs dans l'administration fédérale, Ludovic.
Non, ce que dit Ludovic, là, c'est assez important. Alors, je vais faire le petit jeu de mots. Moi, je pense qu'au plan politique, la Merz est dite. Donc voilà, donc ça, à mon avis, c'est réglé.
C'est cadeau.
Non, mais
cadeau.
Voilà, OK. Maintenant, sur le fond, et je vais ramener, là, on est à Aix-en-Provence, en France. Ce qui est spectaculaire, je ne sais pas si vous avez cette sensation, c'est que moi, ça fait des mois, quand je lis des papiers sur l'Allemagne, l'économie allemande, je me pince, j'ai l'impression de lire des papiers sur la France.
Mais c'est exactement ça.
C'est
un retournement de tendance entre les deux pays.
Donc déjà, il faut se le dire, vu d'ici, on est en France, c'est-à-dire qu'on n'a pas une maladie orpheline qui serait rare et tout ça. La maladie, elle est très, très profonde quand même en Allemagne. Je rappelle juste Volkswagen, hein, 100 000 emplois. Hein,
oui.
100 000 emplois sont sortis la semaine dernière chez Bild.
Suppression d'emplois chez Volkswagen.
Voilà, donc c'est quelque chose de très très profond.
Ouais.
Et là où je suis entièrement d'accord avec Ludovic, c'est que au-delà de ces mesures très techniques, on en entend aussi des propositions, la fiscale et tout ça. Moi, je vois pas le début d'un chemin d'un pays qui se tourne et qui innove et qui embrasse l'avenir. Ça m'inquiète. J'ai l'impression que l'Allemagne reste quand même arc-boutée un peu sur ses vieux démons, croit que le chemin industriel est encore possible et croit encore à un chemin avec la Chine et tout ça. L'exemple de Volkswagen est assez probant dans ce domaine-là. Et je suis pas sûr que le logiciel, il y a un changement profond et le traumatisme en Allemagne est colossal. Vraiment colossal.
Oui, bah,
il est plus fort qu'ici, hein.
Et on peut les comprendre. On va parler de l'acceptation, Emmanuel Auriol.
Oui, alors, c'est vrai que l'Allemagne, sa force était qu'elle était industrielle, et on nous le balançait en France. Oui, vous êtes désindustrialisés, vous êtes tertiarisés, bon d'accord.
Oui.
Donc c'est vrai que c'est un pays industriel, et il y a beaucoup de main-d'œuvre industrielle, donc c'est le pilier de sa croissance. Donc c'est très difficile pour eux d'accepter cette mutation. Et quand même, alors, ce qu'ils font, hein, c'est qu'ils réarment, donc ils sont en train de réorienter, et massivement, hein, donc des fonds, ils ont mis beaucoup d'argent public sur la table vers l'industrie de l'armement. Donc ça peut permettre de faire une transition qui est un peu plus douce pour ceux qui faisaient des voitures et peuvent faire des chars, disons. Bon voilà, il y a cette idée, mais je suis d'accord que ça va être compliqué pour ce pays qui était un peu le phare de voilà, comment on forme des gens dans l'industrie, et on prenait modèle sur eux, ben voilà. Donc
on en est où de ce méga plan d'investissement, Ludovic Subran, là? Parce que Merz est arrivé quand même avec ce méga plan de quasiment 500 milliards sur les infrastructures, 400 milliards dans l'armement. On a l'impression qu'il a beaucoup de mal à le mettre en place.
Alors, il y a encore deux mois, on ne voyait pas trop d'argent sortir des ministères.
Oui.
Là, ça commence à venir, donc on commence à voir. Le problème, c'est que l'argent privé ne vient pas. Le taux d'épargne des Allemands est à 20%.
Il est supérieur, les Allemands épargnent davantage que les Français.
Oui. Taux d'épargne à 20%, pas de CAPEX, pas de croissance des
investissements
privés, très peu d'endettement des entreprises allemandes. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de l'effet d'entraînement auquel on s'attendrait. C'est-à-dire qu'en France, vous mettriez 1 euro dans la défense, il y a deux grandes chances que vous ayez 1 euro, 1,20 euro d'investissement privé. On a des très forts multiplicateurs. En Allemagne, ce n'est pas du tout le cas, à cause de l'ambiance. C'est-à-dire qu'ils sont tellement inquiets sur le détricotage de la protection sociale, maintenant sur l'IA, sur le fait qu'ils vont pas regagner leur débouché, qu'en fait, les gens, ils se disent non, moi j'épargne. Et le deuxième effet qui se coule, c'est qu'ils mettent un gros bout de leur épargne ailleurs, notamment aux États-Unis.
Ah.
Et donc, on a beaucoup de sujets sur le financement de notre propre avenir en Europe. C'est-à-dire, il faudrait qu'une partie de l'épargne allemande...
Vienne en France, par exemple.
Alors,
est-ce qu'ils ne veulent pas investir dans Dassault, dans le Rafale?
Alors, si, mais non. C'est-à-dire que c'était d'ailleurs, à mon avis, une des lubies. C'est-à-dire qu'on se disait, parce que sur l'effort de défense, les Allemands, c'est ceux qui peuvent vraiment porter le plus gros de l'effort de défense. Et donc, il y avait cette idée que ce serait une défense européenne.
Ils ont augmenté de 100 milliards le budget, quand même.
Exactement.
Quand même...
Mais en fait, ils veulent dépenser chez eux. Ils veulent
mais
pas
quand
dépenser
même, Rheinmetall, hein, c'est une entreprise privée qui a des taux de croissance extraordinaires et qui est financé, enfin voilà, donc il y a quand même de l'activité industrielle privée en Allemagne, alors que chez nous c'est en silo avec l'État, la GDA et puis le... Donc c'est un peu différent. Je pense que c'est leur modèle industriel en défense ressemble à leur modèle industriel pour les voitures, hein. C'est des entreprises très puissantes qui gagnent des parts de marché et qui se développent très bien. Donc moi je nuancerais un peu quand même. Ouais.
Le truc avec la défense, c'est qu'il y a, à part Rheinmetall, il n'y en a pas beaucoup en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que, par exemple, sur le tout ce qui est l'amorçage du secteur de la défense, c'est-à-dire pour faire des entreprises à fort intrant technologique, à chaîne de valeur un peu européenne, parce que sur chaque euro dépensé par les Allemands, il y a à peu près 57 cents qui partent aux États-Unis en défense. Donc, pour faire un truc, un écosystème, donc je pense notamment au fameux private equity, hein, le
oui.
capital croissance, le capital investissement, il y a très, très peu d'entreprises de services, par exemple sur toute la cybersécurité, la cryptographie, etc., de drones. Ils n'ont pas l'écosystème et ça va être leur gros enjeu. C'est pour ça qu'il faut penser européen quand on pense défense, parce qu'en fait on en a tous un petit peu et il faut que ces boîtes elles montent en charge ensemble.
Non, il faut que c'est compliqué quand même. Alors il y a KNDS là, bon, ouais, okay. Alors,
KNDS, le fiasco de l'intro,
ce qui est
important, pareil, hein. Parce que je pense que, alors peut-être que je vais avoir une vision un peu franchouillarde, mais j'en suis désolé, mais surtout très européenne, parce que il y a quelque chose qui n'est pas résolu aussi en Allemagne, c'est son rapport à l'Europe. On le voit là sur les dossiers, on le voit sur l'union des marchés de capitaux, on le voit sur le Made in Europe, on le voit sur le thermique dans l'automobile et tout ça. Il y a quand même aujourd'hui dans l'Allemagne, il y a toujours cette tentation de la voix de ce pays un peu en solitaire, qui est un poison, hein. Le gaz russe, c'est un fiasco. C'est un fiasco. L'Allemagne l'a payé très cher, le nucléaire et tout ça. Et là, il y a rien là-dessus. En fait, il y a rien là-dessus. L'union des marchés de capitaux, l'Allemagne,
on l'attend toujours.
Ouais, mais on sait de quel côté boxe.
Elle a une position ambiguë, l'Allemagne, d'ailleurs. On va y revenir. Emmanuel Auriol.
Oui. Alors, sur ce sujet, la défense, c'est pas que l'Allemagne, hein, attention, parce que, il faut voir que la défense, c'est le seul marché qui a été exclu du grand marché unique. Donc, on a évolué, chacun dans son coin.
Ça peut être plus régalien que la défense, évidemment.
Au nom de la souveraineté, oui, mais ça a des conséquences.
Il y aura d'autres SCAF.
Non, mais ça a des conséquences, parce qu'on peut acheter des balles à la Pologne, je suis désolé. Enfin, vous voyez, il y a des choses.
Oui.
Donc, cette idée qu'on doit faire nos balles chez nous, c'est complètement absurde. Donc, on a des coûts. On a des petites séries, c'est très fragmenté. Les pays, évidemment, plus ils sont proches de la Russie, plus ils veulent une réassurance avec le bouclier nucléaire américain. Je crois qu'honnêtement, la guerre en Iran va nous servir, hein, parce que la protection américaine, on a vu ce que ça valait. Donc peut-être que pour l'Europe, ça c'est une chance. Mais la France, qui est le deuxième exportateur mondial d'armes, vend presque rien en Europe. Elle est le troisième exportateur en Europe, parce que c'est fragmenté et ils préfèrent acheter américain, hein, ou coréen, parce qu'ils sont un peu pris à la gorge. Et alors il y a un danger sur la défense, et les Allemands en ont bien conscience, c'est qu'on a un choc énorme sur la demande. On a deux guerres, donc il faut re-remplir les arsenaux, et on a l'Europe qui augmente ses budgets de 1,3 à 3,5%, et on n'a pas un choc sur l'offre. Donc qu'est-ce que ça fait? Des délais qui s'allongent et de l'inflation, hein, des prix qui explosent sans qu'on ait rien de plus en regard. Donc il y a
des
enjeux.
Vous le dites, Emmanuel Auriol, c'est qu'on n'a pas mis en place les voies et moyens d'un développement industriel
pérenne. Non, pas pour
pérenne.
L'instant. Non, on fait la charrue.
De la production.
C'est la charrue avant les bœufs.
Pour le moment, n'a pas été fait.
Non, on est en train d'engraisser des donneurs d'ordre, des entreprises privées qui font des armes et qui les vendent plus cher qu'avant. Voilà, pour l'instant. Donc ça, c'est un échec et il faut y prendre garde. C'est pas parce qu'on met plus d'argent sur la table qu'on va avoir une Europe de la défense. C'est pas vrai. C'est plus compliqué que ça.
Bon, je voulais qu'on touche un mot des retraites. Moi, je trouve que le rapport qui a été remis la semaine dernière à la France, quand nous, on multipliait nos dénis, hein, quand le Haut Conseil au financement de la protection sociale nous explique que les cotisations n'ont pas augmenté depuis 30 ans en France, alors qu'on sait que les retraites explosent. L'Allemagne présentait ce plan avec indexation automatique de l'âge légal sur l'espérance de vie, avec 10 à 15% de capitalisation. Et tout ça se fait...
Et la sous-indexation.
Et la sous-indexation, exactement. Et puis faire participer l'ensemble des cotisants, y compris les mini-jobs. Comment on arrive à un tel consensus en Allemagne et pourquoi on n'y arrive pas en France? Qu'est-ce qui nous manque pour avoir ce regard lucide sur ce choc démographique auquel personne n'échappe?
Alors, il y a différents points. Hein. C'est une question compliquée, je vais essayer d'être court. On n'a pas le même choc démographique. C'est-à-dire qu'eux, ils ont vraiment un système de pension qui est au bord de l'implosion vers les années 2030. Et c'est un système de pension privé. C'est-à-dire que c'est des entreprises, c'est les réformes Hartz, hein, c'est les réformes des années 2000. C'est-à-dire le pilier 1, le pilier par répartition, le nôtre, donne une retraite de misère. C'est une toute petite retraite, oui. La Rister réforme. Et donc les entreprises ont fait des pensions occupationnelles, des pensions le pilier 2, qui ont pris la main. À part qu'elles ont été investies dans des bons qui donnent 0,2%. Et donc là, cette réforme, elle vise à éviter... que les gens qui ont cotisé, les entreprises surtout qui ont cotisé, doivent remettre au pot, parce que c'est un peu ça, avec des sommes qui sont dans des centaines, voire des milliers de milliards. Et donc, il y a vraiment une bombe du système de retraite allemand. C'est ça qui crée un peu l'urgence. C'est que ce n'est pas le secteur public. C'est le secteur public un peu, mais c'est surtout le secteur privé. C'est-à-dire que personne ne sait comment gérer ce pilier 2 de retraite.
Eh oui.
Alors que nous, le pilier 2, il est plutôt très bien équilibré. Le vrai sujet, c'est le coût du pilier 1. Et donc, c'est pas du tout le même sentiment d'urgence. Alors oui, c'est vrai, ils ont aussi, et je vais finir là-dessus, ils ont aussi compris, comme beaucoup de gens dans le monde, que comme on peut très peu jouer sur les impôts, parce que les impôts sur le travail sont très élevés, que les impôts sur le capital, on n'arrive pas à les mettre en place, que tout le monde se barre dès qu'il y a des impôts.
Et oui, c'est mobile.
Le dernier truc qui est le bras armé d'une politique d'investissement, c'est les retraites. Et donc les retraites... les fonds de pension des retraites ou les systèmes de retraite deviennent un bras armé d'une politique d'investissement. C'est les Scandinaves, c'est les Américains. Et donc les Allemands, c'est vrai, commencent leur pilier 3 par capitalisation très fort.
Alors expliquez-nous comment ils comptent faire pour que ça peut-être donne des idées à nos dirigeants français.
Les mêmes ponctions salariales, hein. Un différentiel de ponction protection sociale entre la France et l'Allemagne, c'est à peu près 18 points de pourcentage.
Ah oui.
Donc les Allemands, ils sont déjà, la plupart, moi dans mon entreprise, vous avez une pension occupationnelle et on vous propose une pension volontaire. Ça fait déjà partie du système. En France, le problème, c'est qu'on vous ponctionne déjà tellement que si en plus on vous demande de mettre à côté...
Il
n'y
a plus grand-chose à la fin, effectivement.
Et puis les Français sont obsédés par l'immobilier.
Même si le plan épargne retraite a connu un essor absolument exceptionnel.
Exactement, et donc ils ont un peu plus de marge de manœuvre là-dessus. Donc c'est tout le sujet en France, c'est qu'il faudrait accepter peut-être de manger... une cohorte entière de retraite pour que les gens retrouvent de la marge de manœuvre.
Ouais,
ça coûte 10 points de PIB. Comme moi j'entends les gens, il faut faire la capitalisation. C'est pas par injonction. C'est-à-dire, il faut retrouver de l'espace d'épargne qui va aller dans ces retraites par capitalisation. Et c'est pas facile, ça.
Bon, Manuel Auriol, comment on fait ça?
Oui, bah alors comment on fait ça?
Allez, on veut les
retraites. C'est sympa.
Non, parce que on pose le bilan, mais on cherche des solutions aussi. Hein. Donc, Madame la ministre des Retraites,
voilà, allez-y.
Que proposez-vous?
Non, alors, pour moi, je pense qu'une erreur historique qu'on a faite, c'est pour des raisons politiques de court terme, hein, c'est après-guerre d'avoir ce système par répartition.
Non, mais à l'époque, ça fonctionnait, la pyramide des âges était telle qu'elle était.
Oui, mais ça, il s'avère que c'est une erreur
historique. 65 ans,
il s'avère que, voilà, quelques décennies après, c'est vraiment une erreur historique. On n'a pas ce capital qui est placé, on ne finance pas, du coup, la recherche et le développement. Donc, ça a des tas de conséquences pour nous et ce n'est pas équilibré. Et alors, la France, si on regarde les budgets de la France, un tiers des dépenses, c'est quand même des dépenses de prestations sociales. Les retraites pèsent énormément. Donc, si on veut arriver à une situation qui est un peu stable, il faut absolument qu'on ce volet-là soit amélioré. Et il n'y a pas 36 solutions. On vieillit. Bon, il faut travailler plus longtemps. L'Allemagne aussi a cet argument. Ils ne font pas d'enfants.
Oui.
Donc, s'ils veulent avoir des gens dans les entreprises, ils n'ont pas le choix. Hein. Il va falloir garder des personnes plus âgées, de toute façon. Là, pour eux, c'est un impératif. Nous, on a un peu plus d'enfants. Donc, on peut encore tenir avec des gens qui partent à la retraite plus tôt. Mais pour moi, la solution idéale, qu'on ne peut pas mettre en œuvre en France, peut-être en Allemagne on pourrait, c'est de... En fait, il faudrait faire un immense emprunt, racheter tout ce qui est par répartition. Et à partir d'aujourd'hui, le premier l'actif qui arrive, il fait de la capitalisation. C'est ça la solution. On ne pourra pas passer d'un système à l'autre en douceur. Ça, c'est pas vrai.
Ça fait un très gros emprunt à 400 milliards de pensions annuelles. Hein.
Mais si on veut changer de système, alors on peut mettre un volet capitalisation et tout le monde le fait.
Non, mais l'idée, de toute façon, Emmanuel, c'est pas non plus de mettre 100% de capitalisation. C'est-à-dire que.
Non, mais il y aura toujours des minimums vieillesse.
Y compris en Allemagne, on est sur 10 à 15%, si je ne dis pas de bêtises, oui, la proposition.
Oui, oui, bah, c'est les points de pourcentage qui sont notre différentiel entre les salaires franco-allemands.
Donc les Français ont bien conscience qu'il y a un souci. Donc ils achètent de l'immobilier parce que c'est des, il n'y a pas beaucoup d'actifs longs. L'immobilier au moins c'est long, donc il y a cette idée, c'est pas idiot la pierre quand même. Et puis voilà, et on n'a pas de fonds de pension bien organisé. Donc ça c'est un vrai sujet. Je pense qu'il faut dire aux jeunes générations, ben, faites une partie par capitalisation parce que de toute façon les retraites par répartition minimale vont être faibles.
Et pour ça, Emmanuel, il faut redonner du pouvoir d'achat au travail.
Ben, bien sûr, bah, oui. Ben, bien
sûr. Parce que moi je trouve que ça, c'est dire on va faire la capitalisation alors qu'on sait qu'on a une ponction du travail qui est une des plus élevées
au monde.
Avec des gens qui peuvent plus s'élever socialement à cause de la ponction du travail. Pour moi, c'est le sujet de la campagne 2027.
Ouais,
je sais qu'on est en
pleine
campagne.
Mais les deux sont liés, puisque oui, 28% du salaire brut part aussi dans le financement de nos
retraites. Oui, c'est ça.
Oui, mais c'est encore une fois, tout l'enjeu, c'est de prendre une partie. Alors, on peut regarder ce que l'Allemagne avait fait dans les années 2000, les réformes Hartz IV, c'est de peut-être décotiser une partie des salaires, c'est-à-dire que tu commences par plafonner les charges, c'est-à-dire qu'au-dessus d'un certain montant, c'est la même contribution retraite, et ce qui est au-dessus, il y a moins de contribution retraite, voire pas de contribution retraite. Ça veut dire que oui, la générosité de ta retraite, elle est moindre,
oui.
Mais au moins dès le début, tu leur dis, ben vous savez quoi, en fait, à partir d'un montant, tout ce qui est au-dessus, c'est plus soumis
à
la retraite, mais c'est pas, ça veut dire que votre retraite, elle va pas être à 80% de taux de remplacement ou 60% de taux de remplacement. Elle va être peut-être à 40. Et c'est pour ça que leur pilier 1, il est comme ça. La retraite par répartition, parce qu'ils ont encore un bout en Allemagne, elle est très, très peu généreuse. Mais parce que, du coup, ils sont poussés à faire d'autres types d'investissements. Ouais.
Allez, un dernier point avant de clôturer. Je voulais qu'on parle de la productivité dont on parle assez peu finalement. On a toujours vu l'Allemagne comme le champion de la productivité, coût et hors coût d'ailleurs, mais comme bien meilleur que les Français. Et plusieurs études, on en parle beaucoup avec Gilles Berset notamment autour de ce plateau. Gilles Berset qui vous explique qu'avec le bouclier énergétique, alors qu'il nous a coûté 70 milliards, Sébastien Lecornu a rappelé le coût hier, on a moins augmenté les salaires qu'en Allemagne. Et on a gagné 15 points de productivité, ce qui est absolument majeur par rapport à notre concurrent allemand.
Ça fait cher le point de productivité.
Ouais, c'est très très cher quand même. On l'a acheté cher.
Oui, mais c'est gagné pour la suite. C'est du long terme.
Ouais, c'est gagné pour la suite.
Mais, allez, un dernier tour de table.
Mais ce qui est intéressant, ce que vous dites, Raphaël, au-delà de combien ça coûte, c'est ça alimente un peu le discours qu'on a depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense qu'historiquement, la France a un petit complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Allemagne.
Bah oui,
quand même.
Bien sûr.
Mais je dis pas qu'on devrait avoir un complexe de supériorité non plus. Maintenant, c'est juste, faut comprendre les mots qu'on partage. Les problèmes démographiques, les problèmes de structure, il y a des questions structurelles qui se posent. Et en France, je le dis, je le redis aussi, et pas juste pour se faire plaisir parce qu'il fait beau et on entend les cigales, on a des atouts aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a su gérer, il y a des erreurs qui ont été faites. Alors on peut faire une émission, on peut faire toute une journée sur les erreurs, mais il y a aussi.
On en fait toute la semaine, très souvent. Mais il faut dire quand ça fonctionne bien et qu'on soit optimiste.
Non, mais
parlons des succès.
J'ai pas envie de positiver pour positiver, mais je veux dire, c'est que.
Non, mais il faut en parler aussi.
Il faut le dire. C'est-à-dire que par rapport à l'Allemagne, on a aussi des solutions. Faut arrêter. On a en Europe, de façon globale, on traverse quand même des maladies assez communes qui sont en train de.
Oui.
On les gère peut-être différemment. Et il faut en prendre conscience. Et c'est un réveil qui est nécessaire. Et oui, en productivité, on s'en est bien sorti ces dernières années en France. Il faut le dire.
Emmanuel, puis Ludovic.
Oui, alors justement, parce qu'on avait attaqué l'émission en disant qu'il fallait un petit peu d'optimisme. Moi, un truc qui est là, qui est spécifique à la France, qui m'a fait personnellement très plaisir, parce que j'avais été un peu choquée par le bouclier tarifaire qui avait été mis en place.
72 milliards d'euros, il faut le rappeler.
On a fait des cadeaux fiscaux à des gens qui avaient des.
La tête dans les mains.
Ben oui, non, mais on a fait des cadeaux fiscaux à des gens qui avaient des Mercedes, parce que quand on bloque les tarifs de l'essence, je suis désolée.
Les touristes allemands qui traversaient la France pour aller de Berlin à Madrid.
Et les riches. Donc là, ce qui m'a fait hyper plaisir personnellement, c'est que au moment de la guerre avec l'Iran, les prix se sont envolés, on est monté à 2,50. Il y a des gens, c'est dur pour eux, quoi. Il faut pas rigoler. Hein.
Oui.
On évoquait la rémunération de travail qui est très faible, mais les Français n'ont pas réclamé de bouclier tarifaire.
C'est étonnant. Hein. Moi, j'ai été
très
surpris.
C'est pas étonnant.
De
ça veut dire.
Colère.
ça veut, il y avait, non, d'abord ils comprennent que c'est pas la faute à Macron, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont compris, et ça pour notre pays, c'est quand même une source d'espoir, qu'on a des problèmes budgétaires. Ils l'ont compris, ils savent qu'on peut plus continuer à ouvrir les robinets parce que sinon, c'est les retraites qui s'effondrent, c'est l'État qui s'effondre, c'est la Grèce, on va nous couper les, enfin, ça va être horrible, c'est le FMI à la maison. Et cette compréhension, moi, elle m'a fait chaud au cœur parce que ça leur a coûté cher à nos voisins, hein, le bouclier tarifaire.
Est-ce qu'ils ont compris jusqu'à accepter de faire des efforts?
Je pense que ça va venir. Honnêtement, j'envisage pas que, par exemple, sur le gel des retraites, c'est inadmissible qu'on les gèle pas. Les retraités aujourd'hui en France, je parle pas du minimum vieillesse, mais les retraités en France ont un pouvoir d'achat aujourd'hui qui est supérieur aux actifs. Ils ont plus de capital. Et quand on dit l'inflation est à 2, on bloque les retraites pour un an. Excusez-moi, mais c'est quoi pour les gens? Pour la plupart des gens, c'est rien. Ils peuvent supporter ça. Oui. Tout le monde doit faire un effort. Eux ont compris. Et donc,
quelques euros par mois.
J'espère que ce message va passer enfin.
Bon. Ludovic, sur la compétitivité, l'écart de compétitivité franco-allemand.
Productivité. Mais la compétitivité, elle a toujours été bonne parce qu'en effet, ils avaient des coûts salariaux très bas, ils avaient des coûts énergétiques très bas.
Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui? Quand on voit les augmentations successives qu'il y a eu notamment dans l'industrie allemande.
De salaire, tu veux dire?
Oui.
Oui, moi, écoutez, moi, je travaille en Allemagne et je peux vous dire, la productivité en France est beaucoup plus élevée qu'en Allemagne. La productivité perçue.
Oui.
Et pour des raisons toutes simples, c'est que c'était porté par la productivité sectorielle. Quand vous êtes dans des secteurs non compétitifs, notamment les services financiers, qui sont non marchands, enfin, qui sont non marchands, dans le sens où ils sont pas exposés à la concurrence internationale, bah, vous voyez le différentiel de productivité entre le secteur financier français et le secteur financier allemand. Et donc, en fait, là, maintenant, ce qui se passe, c'est que la réallocation sectorielle, c'est-à-dire le vrai sujet pour les Allemands pour gagner de la productivité, ça va être que les gens puissent bouger de secteurs qui sont en train de perdre des parts de marché internationales et donc des avenues de croissance pour aller vers des secteurs, notamment la tertiarisation, qui pourraient peut-être un peu plus porteuses. Et je finis juste là-dessus. Le vrai sujet, c'est l'IA. Le vrai sujet, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on gagne tous un petit peu
de temps. Et là, on est un peu en avance par rapport à l'Allemagne.
En adoption, parce qu'eux ne font pas confiance. En fait, il y a un différentiel de confiance. 85% des Allemands ne font pas confiance à l'intelligence artificielle. Donc, le taux d'adoption est parmi les plus faibles en Europe. Je finis sur l'IA. Productivité individuelle, on voit tous combien ça nous fait gagner un peu de temps. Le problème, c'est l'organisation du travail et la productivité agrégée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, il va falloir qu'elles dessinent des nouvelles tâches pour réallouer le temps des collaborateurs. Et en Allemagne comme en France, on a des structures figées. La codétermination peut être un avantage ou un inconvénient en Allemagne. Est-ce que les syndicats sont prêts dans certaines entreprises à parler de réallocation de tâches ou est-ce qu'ils sont très figés sur la description du job? Et en France, notre principal problème, c'est le temps de travail. Il faut pas se leurrer.
Bon.
C'est-à-dire, et donc ça va être un gros sujet de, je crois que le, comment dire en anglais, the jury's still out. C'est-à-dire que on sait pas vraiment comment les courbes de productivité vont aller. Le seul truc qu'on voit, c'est que notre productivité, le différentiel avec les États-Unis, c'est un peu resserré. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Personne n'en parle.
Absolument.
Et la vraie question, c'est que si eux peuvent repartir beaucoup plus vite, est-ce que nous, on arrive aussi à adopter un boost de productivité, que ce soit en France ou en Allemagne?
Une seconde, parce que ce que dit Ludovic est intéressant d'ailleurs. Est-ce que les startups allemandes, vous les connaissez, vous? Non, c'est-à-dire que c'est, en fait, c'est bien comprendre aussi. Non, mais c'est-à-dire que même il y a une compréhension outre-Rhin, une observation depuis quelques mois de ce qu'a été la French Tech, et tout ça, parce que il y a tout un écosystème, dans l'économie allemande aujourd'hui. Il y a une marche qui a été complètement ratée, honnêtement. Et c'est un pays, curieusement, qui n'est pas dans l'innovation et qui va devoir changer fortement de logiciel.
Bon. Ça fait beaucoup de renaissance.
Beaucoup d'innovation, mais industrielle, mais il n'y a pas d'innovation servicielle.
En deep tech.
Ils sont très bons, voilà. Dans toute la partie, la French Tech, ils n'ont pas eu la French Tech. Mais là, avec leur retraite par capitalisation, c'est tout l'enjeu. Hein. L'enjeu, c'est mettre de l'argent dans la tech et avoir des formes de financement pour ce nouveau secteur. Quoi.
Bon, un pays avec de nombreux défis devant lui. Vous voyez, il n'y a pas qu'en France qu'il y a des soucis, finalement. Quand on se compare, on se console. Merci à tous les trois, Emmanuel Auriol, Ludovic Souran et Ludovic De Sauté, pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay. On reste tout au long de la journée dans les travées des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. On a encore plein de belles surprises à vous réserver sur l'antenne de BFM Business. Je vous dis rendez-vous à demain pour les experts, toujours ici à Aix. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.